Ne ratez pas les soldes Costa. Réservez votre croisière d'été avant le 3 février avec 300 euros de réduction par cabine. Info en agence ou sur costacroisière.fr. Costa.
Europe 1, il est 14h. Toute l'information avec Margot Siffer. Bonjour Margot.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Réunion cet après-midi à Bruxelles des ambassadeurs de l'Union européenne. Elle fait suite aux menaces douanières de Donald Trump. Emmanuel Macron restera en contact toute la journée avec ses homologues. Il demande l'activation de l'instrument anti-coercition de l'Union européenne. Rachida Dati quittera le gouvernement avant les municipales pour mener sa campagne, annonce ce dimanche de la ministre de la Culture. Aucune date exacte n'a été précisée. Le PS satisfait des victoires obtenues sur le budget. Il s'engage à ne pas censurer le gouvernement, et cela à deux conditions. Avoir la copie budgétaire complète promise par Sébastien Lecornu et que le financement des mesures ne se fasse pas sur le dos des Français. La popularité du Premier ministre stable, 29% d'opinion positive, résultat du baromètre Ipsos pour la Tribune du dimanche. A contrario, Emmanuel Macron bat des records d'impopularité, 18% seulement de jugement favorable. L'appartement d'un immeuble parisien s'est effondré cette nuit sur celui du dessous. Il rassemblait une soixantaine d'individus pour une soirée dans le 11e arrondissement. 20 d'entre eux ont été blessés, dont un gravement. Les violences se multiplient en prison. Un élève surveillant victime hier d'une agression à Salon de Provence. Un détenu lui a porté un coup de lame à la gorge. Il a été légèrement blessé. Trop c'est trop, les mots du syndicat de police Unité. L'un de leurs collègues a été blessé vendredi soir lors d'un refus d'obtempérer. Ça s'est passé pendant un rodéo urbain. Trois individus sont activement recherchés. Un enfant surpris jeudi en train de jouer avec de la résine de cannabis. Les faits se sont déroulés à Arcachon dans une école maternelle. L'institutrice est intervenue avant que l'enfant n'en ingère. Une enquête a été ouverte. Un spectacle de Dieudonné stoppé hier par les gendarmes dans les Alpes-Maritimes. Il s'est tenu en présence de 200 personnes et cela en dépit d'une interdiction préfectorale. On cause évidemment ses propos à caractère antisémite et qui incite à la haine. Les Portugais aux urnes ce dimanche, premier tour d'une élection présidentielle où le conservateur André Ventura pourrait arriver en tête. Il affronte notamment le socialiste António José Seguro. Plus de 200 000 foyers privés d'électricité en Ukraine. Elle a été visée cette nuit par de nouvelles frappes russes. Une femme de 20 ans a été tuée. 4 autres personnes blessées, dont un enfant de 7 ans. L'Aveyron, l'Hérault et l'Aude en vigilance orange pour crue. L'Hérault, l'Aude, la Haute-Corse et la Corse du Sud pour pluie et inondation. L'Aude et la Corse le resteront demain. En revanche, dans l'Hérault, les pluies devraient s'atténuer en soirée. Météo France prévoit des cumuls pouvant atteindre les 220 mm sur les reliefs. Et puis maintenant, on termine avec cette bonne nouvelle en biathlon. Lou Jean Monod qui remporte la poursuite Ruppolding. C'est en Allemagne. La Française, leader de la Coupe du Monde de biathlon, assoit son avance en tête du classement général. Camille Benet, auteur d'un tir parfait, termine troisième de la course derrière la Suédoise Anna Öberg. 14h03 sur Europe 1. Tout de suite, le poulet du dimanche avec Sophie Dolan et Guillaume Bénèche.
Merci Margot, on vous retrouve dans une heure pour un nouveau point sur l'actu.
Europe 1, le poulet du dimanche. 14h-15h, Sophie Dolan et Guillaume Bénèche.
Madame, Monsieur, bonjour, il est 14h, c'est dimanche, vous êtes bien sur Europe 1, bienvenue dans le poulet du dimanche. Bonjour ma chère Sophie Dolan.
Bonjour Guillaume Bénèche, bonjour à vous chers auditeurs. Ravi de vous retrouver pour ce déjeuner dominical où l'on prend le temps de discuter, de comprendre et de confronter nos regards toujours avec bienveillance.
Et aujourd'hui nous recevons le gardien d'un temple, une institution française qui fête ses 2 siècles d'existence.
Il est né sous la Restauration, il a vu passer 18 régimes politiques, il a publié Zola, Proust et d'Ormesson. Je ne parle pas de notre invité, mais bien de ce qu'il dirige. Le plus vieux journal de France, encore en vie, et pour souffler les 200 bougies du Figaro, nous sommes avec son directeur général, qui est aussi directeur général du groupe Le Figaro. Bonjour Marc Feuillet, bienvenue dans le poulet du dimanche.
Bonjour Sophie, bonjour Guillaume,
bonjour.
Marc Feuillet, avant toute chose, à votre avis, pourquoi est-ce qu'on vous reçoit autour de la table ce dimanche, vous qui êtes d'habitude un homme de l'ombre ?
Je pense que c'est à cause de cet anniversaire exceptionnel et de l'événement exceptionnel qu'on organise.
Si on vous invite, Marc Feuillet, en fait, c'est aussi parce que vous êtes à la tête d'un dinosaure qui court plus vite que les startups. Le constat est cruel. La presse papier agonise, les kiosques deviennent des magasins de souvenirs et la tension moyenne d'un humain en 2026 est inférieure à celle d'un poisson rouge, il faut se le dire. Pour Sophie Le Figaro, c'est le rituel sacré du petit-déj. C'est l'odeur de l'encre, la citation de Beaumarchais, et puis soyons honnêtes, c'est surtout pour elle le carnet du jour, l'endroit stratégique pour vérifier que les Lavillardières se marient bien avec les Rochechouart.
C'est vrai.
C'est un marqueur social, on le pose sur la table du salon pour dire qu'on fait partie du club. Pour ma génération, le papier, c'est un peu plus un concept. Je l'avoue, la dernière fois que je l'ai lu, un quotidien papier comme ça, c'est parce que mon papy venait de le récupérer dans sa boîte aux lettres. Nous, on s'informe davantage sur TikTok, on veut du gratuit, du clash, du live. Et pourtant, au milieu de ce désastre, vous affichez une santé insolente. Vous avez réussi l'impossible, faire payer de l'information à des gens qui ont été habitués à tout avoir gratuit. Vous avez transformé la vieille dame du boulevard Haussmann en une machine de guerre numérique, alors que vous vous apprêtez à souffler les 200 bougies du Figaro. Si on vous reçoit aujourd'hui, Marc Feuillet, c'est simplement pour comprendre le secret de cette jeunesse éternelle.
Marc Feuillet, quand on dirige un groupe puissant comme le Figaro, vieux, on l'a dit, de 200 ans, à quel moment on a le sentiment qu'on ne fait pas seulement un métier, mais qu'on porte une responsabilité ?
Ah oui, alors d'abord la presse, les médias, l'information, ou la radio d'ailleurs, c'est un métier de passion. Il faut aimer l'information, il faut aimer les journalistes, il faut aimer cette actualité qui roule et qui en permanence vous donne de l'énergie et vous pousse vers l'avant. Donc ça, c'est ce qui, je crois, anime beaucoup de collaborateurs du Figaro. Et puis, cette responsabilité, une fois qu'on dirige évidemment cette entreprise, c'est d'essayer de faire mieux que ses prédécesseurs, c'est d'essayer d'aller toujours plus loin. Et au fond, peut-être notre fierté en ce moment, c'est de se dire que on est encore plus lu, encore plus écouté et regardé, puisque les réseaux sociaux, c'est ça, hein, c'est écouter, regarder, lire, que le quotidien de Calmette, de Villemessant ou même d'Hersant. Et ça, ça donne une immense fierté, une immense confiance pour l'avenir.
Mais comment on devient un grand patron de presse comme vous ?
Écoutez, pour être très simple, je suis rentré dans le groupe Lagardère au tout début parce que je ne voulais pas, je voulais avoir un métier qui ait du sens. Voilà, je me disais, oh non, pas la finance, pas les marchés, pas le marketing. Alors je me disais, je veux un métier qui ait du sens. Et j'ai été frappé à la porte du groupe Hachette à l'époque, qui était dirigé par Jean-Luc Lagardère, et qui, dans lequel Europe 1 était aussi, et qui continue à vivre d'ailleurs. Et c'est là où j'ai commencé, et je ne suis plus jamais parti, j'ai plus jamais quitté ce métier.
Alors, est-ce que c'est vrai qu'il y a un mythe du grand patron qui peut faire et défaire les carrières ?
Oui, alors, moi je n'aime pas beaucoup les mythes des tycoons. D'abord, ils ne correspondent pas, et puis je pense qu'ils correspondent aussi à une autre époque.
Vous n'êtes pas Citizen Kane.
Non, pas Citizen Kane. Alors, c'est romanesque. Hein. On a besoin de ça pour rêver. Hein. Ces grands patrons, avec des caprices, une vie romantique. Oui, Citizen
Kane. Surtout
Kane.
Dans l'univers des médias, en plus.
Sur l'univers des médias, Murdoch.
Murdoch Succession.
Ah oui. C'est incroyable. On regarde ça, on est stupéfait de voir tous ces complots, tous ces... Mais je crois que non, nos métiers, c'est aussi autre chose. Je crois qu'un média, c'est des couples, c'est des associations entre d'un côté des journalistes, des présentateurs, des hommes de produits, et puis de l'autre des hommes de marketing et de gestion. Mais on retrouve ces mêmes binômes dans le cinéma. Un producteur, un grand réalisateur, pas de grand film sans producteur et sans grand réalisateur. L'édition. Certes, les auteurs peuvent s'auto-éditer maintenant, mais la réalité, c'est que c'est aussi le couple éditeur et auteur. Donc voilà, moi j'aime ces concepts-là. Voilà, j'aime penser que les médias, c'est cette association d'une forme d'ambition économique et marketing et d'une ambition éditoriale.
C'est pas toujours facile, j'imagine, de diriger un groupe de presse en toute indépendance éditoriale, lorsque l'actionnariat est privé, justement, c'est quand même la famille Dassault qui a repris le groupe Le Figaro il y a 20 ans.
Tout à fait.
Et est-ce que c'est entre héritage et modernité ? Est-ce que ça change ?
Ils
quand
ont
même
réussi à combiner par leur action depuis 20 ans. Je crois que maintenant, Le Figaro appartient à la famille Dassault depuis, je crois, 2004. Peut-être c'est plus longtemps maintenant que la période dans laquelle Hersant a repris et dirigé Le Figaro, Robert Hersant. Hein, donc c'est dire quand même que c'est aussi une tradition du Figaro d'avoir cette continuité. Bon, la famille Dassault et surtout Serge Dassault étaient passionnés du Figaro. Et c'était aussi un passionné de technologie. C'était un ingénieur, un passionné de technologie. Et donc quand il a fallu transformer le Figaro, il y a eu une compréhension de ce qu'il fallait faire en termes d'investissement, de recrutement différent des profils classiques qu'on trouvait dans les médias à l'époque, et c'est venu naturellement. Et donc c'est cet accompagnement, cette volonté qui a fait ce que nous sommes maintenant.
Mais c'est aussi un homme politique, donc pas d'interférence.
Je dois dire qu'on partageait les mêmes valeurs, et c'est ça aussi. C'est la raison pour laquelle Serge Dassault était passionné du Figaro, parce que c'était des valeurs communes. Vous les connaissez, hein, ces valeurs de conception d'un certain ordre social, de libéralisme, évidemment, bien sûr. Et puis, et ça, je rajouterai ça peut-être sur les valeurs du Figaro, si vous me permettez, c'est un journal hédoniste, c'est une marque hédoniste, on est ouvert vers les plaisirs, le vin, la gastronomie, la mode, très important, Madame Figaro.
Qui est donc le Figaro est très français, en fait, finalement.
Est très français. C'est un journal qui est très français, vous avez raison. C'est l'esprit français aussi. La Figaro, c'est l'esprit français.
Vous comprenez qu'il y ait une critique aujourd'hui des médias qui soient, en tout cas, la propriété de personnes milliardaires, etc. Vous, la vue en dirigeant un groupe comme celui du Figaro.
Oui, il y a cette idée que le fait que ce soit des grands industriels qui s'intéressent aux médias réduirait le pluralisme. Moi, je pense qu'ils ont plutôt sauvé une grande partie du paysage médiatique français. Quand Xavier Niel rentre dans Le Monde, il sauve Le Journal, qui était en train de péricliter. Quand le groupe Dassault reprend Le Figaro, il l'a considérablement développé. Donc, quand Vincent Bolloré reprend Vivendi et son activité média, ben, il la développe. Donc, je crois plutôt que ces actionnaires professionnels font au contraire un bon travail et permettent au pluralisme d'exister.
Vous parliez tout à l'heure de liberté. Moi, j'aime beaucoup l'adage ou la devise du Figaro. Sans la liberté de blâmer, il n'est point d'éloge flatteur. Beaumarchais, évidemment.
Beaumarchais.
Est-ce qu'aujourd'hui, on peut toujours blâmer ? Est-ce qu'il y a encore cette liberté sans être immédiatement, j'allais dire, caricaturé ou attaqué ?
Je crois qu'on peut le faire. Cette liberté est fragile. Hein. Elle est toujours contestée maintenant par des campagnes sur les réseaux sociaux, par des dénonciations.
Et on l'a vu encore récemment, d'ailleurs, avec la une de Charlie Hebdo de la semaine.
Avec la une de Charlie Hebdo, avec l'ARCOM, qui un peu juge et commence à rentrer dans les jugements éditoriaux,
dans les
auditions qui sont polémiques. Il y a une confusion. Moi, je suis partisan d'une grande liberté, justement, de propos. C'est dans le pluralisme de l'offre que se situe, évidemment, la liberté. Mais je voudrais revenir sur Figaro et Beaumarchais. Figaro, vous le savez, c'est le valet, c'est l'impertinent. Et c'est pour ça que ce titre a été choisi par les deux fondateurs du Figaro en 1826, c'était parce que, justement, ils persiflaient, ils dénonçaient.
Mais sous couvert d'anonymat, je crois.
Alors, vous avez bien raison, Sophie.
C'était plus facile.
Le premier Figaro est né sous Charles X, donc il y a une censure. Dans notre exposition, d'ailleurs, on voit l'histoire du Figaro, des grands repères sur l'histoire de France et sur les lois sur la presse et les médias. Et donc, effectivement, à l'époque de Charles X, eh ben, ils écrivaient sous pseudonyme, voilà, pour... Et je dirais, ils faisaient des allusions plutôt que des articles politiques, parce que sinon, évidemment, ils auraient été censurés. Et ils l'ont d'ailleurs été à plusieurs reprises, traînés devant les tribunaux. Donc, c'était des débuts difficiles.
Alors, c'est rigolo, parce qu'on parlait tout à l'heure de la figure, en tout cas, du patron de presse. On a fait une référence à Murdoch, à Succession, etc. Moi, quand je pense patron de presse, je pense le film Illusions perdues, ou Les illusions perdues, de façon générale, de Balzac.
Ah, ouais, et
je vois cette rédaction, début du 19e siècle, etc., etc., avec les pseudonymes, avec les fausses critiques, etc. Et est-ce qu'on a perdu dans la presse aujourd'hui, alors, et que ce soit le Figaro ou de façon générale en France, cet aspect même presque d'impertinence, mais en tout cas
et de sens
de
critique,
poids,
tu dirais,
de sens critique.
Oui, insolent, vous voulez dire.
Ouais, d'insolence.
Alors, les époques changent, les styles changent. C'est vrai que quand on regarde les plumes à l'époque de Villemessant ou même à l'époque de l'après-guerre, voilà, l'écriture était différente, de grande qualité, il faut bien le dire, parce que les écrivains et les éditorialistes avaient une plume brillante.
Bah comme Proust,
ils ont
Baudelaire.
Gardé cette tradition. Figaro, je m'empresse de le préciser. Bon, après, évidemment, chaque journal évolue en fonction de la société, de la culture. Il y a une autre manière de s'exprimer aussi, hein, maintenant. Et donc, c'est tout ça qui fait aussi l'évolution du Figaro. Mais c'est vrai que s'il y a un personnage qui incarne cette époque balzacienne, c'est Villemessant. En 1866, Hippolyte de Villemessant lance le quotidien. Il avait racheté le Figaro qui avait des difficultés économiques dans les années 1840-1850 et il reprend le journal et il en fait un quotidien et Villemessant, c'est le personnage balzacien.
Mais c'est incroyable parce qu'il avait d'ailleurs, en plus, tu sais, il a créé les abonnements, j'ai vu les réclames, les petites annonces, les reportages. En fait, il a tout inventé.
Oui, c'était un éditeur et un patron de journal assez génial. Et il était très créatif. Il avait commencé sa carrière en lançant un journal de mode. Il était passionné par la mode.
Très moderne pour l'époque.
Très moderne. Et d'ailleurs, ce code génétique, et c'est peut-être le commentaire que je pourrais faire aussi sur l'histoire du Figaro, il y a dans le code génétique du Figaro des éléments qui restent à travers les siècles. Vous voyez, ce patron qui avait repris le Figaro, qui l'avait transformé en quotidien, était aussi un passionné de mode et d'art, puisque vous le savez, il était un grand ami d'Offenbach, par exemple, dont il subventionnait les productions, les spectacles. Et donc, vous voyez, cet éclectisme déjà, à l'époque, au 19e siècle.
Et les hommes écrivaient encore toujours sous anonymat pour le magazine féminin.
Oui, alors il y avait des femmes, mais surtout des hommes qui écrivaient sous des pseudos féminins.
C'est rigolo. Bon, dans un instant, on va plonger encore dans l'histoire. Le Figaro a 200 ans, mais a-t-il encore les dents acérées de l'affaire Dreyfus à l'expo du Grand Palais? On en parle juste après ça. Restez avec nous sur Europe 1.
C'est Clélie Mathias. La liberté d'expression, vous l'entendez sur Europe 1. Oui, aux questions qui dérangent.
Europe 1 Info, Clélie Mathias. Du lundi au vendredi, de 13h à 14h sur Europe 1.
La radio libre.
Aesio Mutuelle présente. Dis donc, tout en trop, c'est moi ou t'as pris du muscle?
Ah non, j'ai croisé Météo ce matin et vu ses prévisions, j'ai mis 8 toges.
Ah oui, mais enfin, Météo, ça le débute, hein. Elle est pas toujours fiable. Là, t'as chaud, non?
Parfois, il vaut mieux être bien couvert que trop couvert. Aesio Santé Essentielle, c'est la couverture santé simple et claire, recentrée sur ce qui vous sert vraiment et jusqu'à 20% moins cher que la concurrence. Aesio Mutuelle, c'est ça la mutuelle d'aujourd'hui. Étude comparative réalisée par Minalea en 2025 sur des offres non responsables à prestations équivalentes. Détails et informations sur aesio.fr.
Shiva, spécialiste du ménage à domicile, vous souhaite une très bonne année 2026.
Pour bien commencer l'année, Shiva vous offre une semaine de ménage. Oui, une semaine de ménage. Conditions sur shiva.fr.
Shiva, un éclat de magie dans votre vie. Et profitez toujours de l'avance immédiate du crédit d'impôt. Sous réserve de souscription et selon l'article 199 du Code général des impôts.
Le poulet du dimanche, 14h-15h sur Europe 1. Sophie Dolan et Guillaume Bénech.
Nous sommes de retour dans le poulet du dimanche sur Europe 1, toujours en compagnie de Marc Feuillet pour les 200 ans du Figaro.
Alors Marc Feuillet, on va vérifier si vous connaissez vraiment les secrets du Figaro. On vous donne quelques anecdotes, vous nous dites si c'est vrai, si c'est faux, et puis vous nous expliquez si vous le pouvez bien sûr. Alors est-il vrai qu'un directeur du Figaro a été tué dans son propre bureau par la femme d'un ministre, simplement parce qu'elle avait peur qu'il publie ses lettres d'amour?
Ah oui, c'est incroyable. L'assassinat de Gaston Calmette. Donc Gaston Calmette était le directeur du Figaro. Joseph Caillaux, ministre des Finances, président du Conseil, à l'époque, c'était ses fonctions. Et là, il y a une grande campagne autour de l'impôt sur le revenu. Et déjà, le Figaro, regardez toujours ce code génétique, ferraillait contre la fiscalité, contre les impôts confiscatoires. Et Calmette menait une campagne contre cette réforme de l'impôt sur le revenu. Et évidemment, il y avait une opposition très forte entre le Figaro et Joseph Caillaux. Et prêt à tout, Gaston Calmette commence à publier des lettres échangées par Caillaux avec ce qui était à l'époque sa femme, car il s'était séparé, mais il y avait aussi des lettres avec la femme qu'il avait épousée après son divorce, et donc sa femme, donc avec qui il s'était remarié, craint que des lettres d'amour soient dévoilées par le Figaro. Et donc, elle fait l'achat, l'acquisition d'un pistolet. Elle prend rendez-vous. Gaston Calmette la reçoit dans son bureau et il est assassiné, il est révolvérisé par la femme de l'équivalent du Premier ministre de l'époque.
C'est fascinant.
On va faire attention, votre rédacteur en chef, avec vous qui bataillez pour la taxe Zucman en ce moment.
Souvent, Alexis Brézet, faisons attention. Fermons les portes.
Le Figaro s'appelle ainsi car son fondateur était un ancien barbier fan de l'opéra. Est-ce que c'est vrai ou faux ?
Fan de l'opéra, non, c'est le personnage de Beaumarchais. Alors, dans l'exposition, on a une grande chance. La BNF nous a prêté le manuscrit de La folle journée ou le mariage de Figaro, puisque c'est comme ça que s'intitule cette pièce. Beaumarchais a eu des difficultés pour la jouer. Elle est écrite en 1778, mais n'est représentée officiellement la première fois qu'en 1784. Vous comprenez pourquoi, c'est l'esprit des Lumières, donc un esprit de contestation, un peu de fronde, évidemment, vis-à-vis du pouvoir en place. Et donc ce manuscrit est au Grand Palais, il nous a été prêté, et il paraît, alors je n'ai pas complètement vu cette trace, mais qu'il y a la trace des doigts de Beaumarchais qu'il a feuilleté de très nombreuses fois, lu, et c'est là où est la fameuse citation qui orne encore le titre du journal, « Sans la liberté de blâmer, il n'est pas d'éloge flatteur ».
Alors Marcel Proust était payé au mot par le Figaro, mais le journal lui retirait de l'argent s'il faisait des phrases de plus de 10 lignes.
pauvre à la fin.
Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il écrivait trop long. Donc il se plaignait régulièrement d'être coupé, d'être retitré. Mais je crois qu'il avait une obsession quand même, c'était de publier dans le Figaro. Le Figaro était son journal et il y a publié des textes formidables. Et je ne sais pas s'il était payé au mot et si on lui rédigeait. Mais je crois qu'à l'époque, effectivement, on payait à la longueur.
Et là où c'est marrant, c'est qu'on voit d'ailleurs, alors, aussi bien dans l'exposition au Grand Palais que je crois dans le livre aussi, qui est disponible en librairie, on voit les pattes de mouche de Proust et les ratures et la difficulté de le relire. Ça devait être insupportable pour les secrétaires de rédaction.
On a la chance aussi, j'en profite pour le dire, d'avoir des manuscrits des grands écrivains du Figaro. Donc on a des manuscrits de Proust, avec justement ces papiers, des manuscrits de Mauriac aussi, des manuscrits de Jean d'Ormesson aussi, qui nous ont été prêtés. Et c'est vrai que voilà, ils permettent de voir un peu comment ces écrivains rédigeaient.
Puisque vous parlez de Jean d'Ormesson, avant que nous reprenions nos petites questions, je me disais qu'on allait vous faire une petite surprise. Écoutez.
Dernier reproche, Monsieur d'Ormesson, celui qui vous irrite. Je vous ai demandé tout à l'heure si le Figaro était le journal du pouvoir, et j'ai rappelé que le Figaro avait été pétainiste, gaulliste, pompidolien hier, et qu'il est, semble-t-il, giscardien aujourd'hui.
Comme c'est amusant votre question. Est-ce que nous sommes du côté du pouvoir, ou est-ce que nous serions par hasard, tout simplement, du côté de la majorité des Français?
Je voudrais poser une toute petite question supplémentaire. Si demain François Mitterrand conquiert le pouvoir, est-ce que le Figaro deviendra mitterrandiste? Puisque vous dites, au fond, le Figaro est à l'image de la majorité des Français.
Je vais vous répondre un peu plus subtilement. Si le programme commun arrive au pouvoir, nous entrerons dans l'opposition. Si Monsieur Mitterrand prend le pouvoir, sait-on jamais.
C'est exceptionnel.
Je fais une petite parenthèse, mais c'est vrai que sa naissance a été annoncée quand même dans le Figaro en 1925. Son oncle Vladimir d'Ormesson a longtemps collaboré au journal et lui-même l'a dirigé, on le sait, entre 1974 et 1977. Donc, on voulait vous faire cette petite surprise. Évidemment, on dit que le Figaro est un journal de droite et j'imagine que vous allez être d'accord avec ça.
Oui.
Donc ça, c'est au moins vrai. Et est-ce que du coup, dans la véracité, le Figaro était le premier journal au monde à publier une carte météo quotidienne?
Ah, c'est possible.
C'est vrai.
Je ne sais pas. Alors là, c'est une colle, je ne sais pas. On en publie toujours une.
C'est dingue.
Et non seulement on en publie une, mais on la publie venant de la chaîne Météo. Et la chaîne Météo est la propriété du groupe Figaro.
Bah, c'est formidable.
Donc tu avais raison, c'est vrai.
Alors au début du journal, la salle de rédaction servait aussi de salle d'escrime pour régler les différends entre les journalistes. Est-ce que c'est vrai ça ?
Ah, ça je ne sais pas. Non, ça je ne connais pas cette anecdote. Ce que je sais, c'est que Villemessant, et d'une manière générale, les directeurs de la rédaction, aimaient que les journalistes aient des polémiques, des conflits. Ils disaient, mais si vous n'avez pas eu à un moment donné quelqu'un qui s'est plaint, un adversaire, c'est vous n'êtes pas intéressant.
Vous êtes comme ça aussi.
Dieu sait si on nous critique, réaction. Mais tant mieux. J'allais dire, tant mieux si le Figaro est critiqué, ça veut dire qu'on a des idées, ça veut dire qu'on les défend. Et je crois que c'est toujours un peu ça l'esprit du Figaro.
Et c'est vrai qu'il virait de la façon suivante ses collaborateurs en disant allez vous promener, il leur offrait une canne. Et donc c'était un signal fort.
Vous avez déjà été
viré. Et voilà.
Voilà. Allez vous promener dehors sur les boulevards. Et il leur donnait une canne et c'était sa manière de congédier. Là on parle de Villemessant qui était un personnage. Oui. Et Eugénie Bastier le décrit comme un Porthos. Mais il faut voir, c'était un bon vivant. C'était. Alors il n'écrivait pas. Alors il dictait, mais il n'écrivait pas. C'est un journaliste qui n'écrivait pas.
Mais il savait rechercher des plumes. Mais comment oui. avez-vous fait pour retrouver 200 ans d'histoire à l'occasion de l'anniversaire du Figaro ?
Il y a eu un très gros travail d'archives, un énorme travail qui a duré 2 ans et qui, je crois, fera date. On s'est entouré d'une équipe qui est notamment de nos deux commissaires de l'exposition. D'un côté, Guillaume Perrault, qui est le responsable des pages histoire dans le Figaro, et de l'autre, de Claire Blandin, qui est professeure à la Sorbonne et qui est la spécialiste du Figaro, figurez-vous. Elle a publié des ouvrages sur le Figaro au début des années 2000. Je vais vous raconter une petite anecdote. La première fois que j'ai lu, évidemment, ces livres, qui étaient dans ma bibliothèque, d'ailleurs, du Figaro, quand je suis arrivé, je me suis dit, mais cette dame est à la retraite. Elle a publié il y a plus de 20 ans un ouvrage sur le Figaro. Elle n'est plus... Mais essayez quand même de voir, essayez de la rechercher. Eh bien, pas du tout. C'était sa thèse d'étudiante.
C'est incroyable.
Et donc, c'est une femme voilà, qui toujours en activité ou bien, et qui est professeure des universités, spécialiste des médias et qui nous a aidés à travailler sur cette exposition. On a aussi beaucoup eu recours à nos archives.
Elles sont alors, vos archives, justement, elles sont gardées
elles sont,
où ?
Alors, ouais. Elles sont à la BNF, beaucoup, on les a numérisées, elles sont en ABNF. On a des exemplaires qui nous appartiennent en propre, qu'on a pu retrouver. On a fait appel aussi aux lecteurs.
Hein les lecteurs avec
collectionnent des exemplaires, des unes très significatives de l'histoire du Figaro, des suppléments. Le Figaro avait déjà une grande tradition de suppléments. Et Claire Blandin avait aussi accès à la documentation, notamment de Pierre Brisson, dans le cadre de son travail universitaire de recherche. Pierre Brisson, qui était le directeur du Figaro d'avant-guerre et d'après-guerre.
Tout ce travail de numérisation, ce que je pense aussi, Europe 1 a fêté en 2025 ses 70 ans, il y a eu un travail phénoménal fait par Julien Pichenet, etc., où ils sont allés chercher dans toutes les archives de la station des extrêmes, comme l'archive qu'on vous avez entendu il y a quelques minutes de d'Ormesson. Est-ce que vous avez une énorme, toute la collection entière des numéros du Figaro?
Alors la collection physique, oui, elle est stockée. Alors les exemplaires se dégradent. Voilà, c'est un peu comme toute la partie technique aussi du son. À un moment donné, ce qui compte quand même pour les préserver, c'est la numérisation. Je dois dire que la BNF a fait un très gros travail là-dessus, avec un accès possible non seulement pour les chercheurs, mais aussi les partenaires comme nous. Et donc on a pu retrouver beaucoup de choses assez facilement.
Et notamment les grands procès. Comme Zola, qui défendait la Dreyfus,
oui,
et qui a été dans les premiers, avant même l'Aurore et le J'accuse.
Tout à fait, c'est un épisode qui est peu connu, mais le Figaro est un journal Dreyfusard. Le Figaro de l'époque se persuade que le capitaine Dreyfus a été victime d'une injustice.
Pouvez-vous peut-être nous remettre le contexte?
Alors le contexte, Dreyfus donc est condamné. Il est condamné pour avoir espionné pour l'Allemagne, vous vous souvenez.
Très
on
bien.
Est avant-guerre, avant la Première Guerre mondiale. On est donc après la défaite de 1870. La France et l'Allemagne ont une énorme rivalité, évidemment. La France ne rêve que de reconquête de l'Alsace-Lorraine qu'elle avait perdue. On voit des espions partout, des espions allemands. Et Dreyfus est impliqué dans cette affaire d'espionnage. Mais évidemment, Dreyfus est un officier de l'armée française, mais il est juif, et donc évidemment il y a une campagne très dure de la presse à l'époque, quasiment unanime, pour le dénoncer à la fois comme un traître et avec des relents d'antisémitisme. Et le Figaro pense le contraire, à rebours de son lectorat, à rebours de l'opinion, pratiquement seul, il publie, et il publie qui? Zola. Zola, en 1896, je crois, publie un papier célèbre qui s'appelle « Pour les Juifs ». Et ensuite, après, Le Figaro ouvre ses colonnes à Zola, qui dénonce évidemment le sort réservé au capitaine Dreyfus, reproduit même les fameux bordereaux, vous savez, avec l'écriture du capitaine Dreyfus et l'écriture de celui qui est suspecté, qui est le coupable, oui. Esterhazy, et pour que le public puisse comparer les deux écritures et pour se faire sa propre opinion. Et donc, Le Figaro joue un très grand rôle dans cette campagne, mais à un moment donné, en 1797 ou 1798, à la fin de toute cette période, Le Figaro est ruiné. Le Figaro est ruiné.
L'histoire s'arrête.
Il y a des campagnes de désabonnement. Il est en difficulté.
C'était violent même dans les dîners en ville.
Il a plus de publicité. Le fameux dessin de Carandache.
De Carandache.
Voilà, son lectorat est complètement divisé. Et Le Figaro renonce à un moment donné et dit « J'arrête de parler de l'affaire Dreyfus. Je suis en difficulté. J'arrête. Je ne peux plus continuer. » Et le dernier papier de Zola, le fameux J'accuse, est publié dans l'Aurore.
C'est exceptionnel comme histoire.
Exceptionnel, ça passionne les
Merci
filles.
De nous l'avoir partagé.
Dans quelques instants, on continue de parler des 200 ans du Figaro avec son directeur général, Marc Feuillet. Mais d'abord, musique, c'est Cheryl Crow sur Europe 1. C'était All I Wanna Do de Cheryl Crow sur Europe 1 et nous sommes toujours dans le poulet du dimanche avec Marc Feuillet, directeur général du Figaro qui fête ses 200 ans.
14h-15h, le poulet du dimanche sur Europe 1. Sophie Dolan et Guillaume Bénech.
Vous êtes toujours sur Europe 1 dans le poulet du dimanche avec le directeur du Figaro, Marc Feuillet, pour les 200 bougies du journal.
Tout le monde lit le Figaro de Rachida Dati à Olivier Chiroux en passant par François Hollande. Écoutons ce florilège de témoignages.
Alors pour moi, le Figaro, c'est un journal qui a changé ma vie. Et donc si j'en suis là aujourd'hui, c'est grâce à un Figaro de 1986 qui parlait d'une personne, mais j'ai été interpellée pas par la personne, ni par la personnalité, mais par le prénom, Albin Chalandon. Et donc j'ai lu cette interview, et ensuite je me suis intéressée à sa personne, à son histoire. C'était ma première venue à Paris, à une réception diplomatique, il est annoncé Albin Chalandon, ministre de la Justice, garde des Sceaux. Et à ce moment-là, je vais le voir, je vais le rencontrer, et cette rencontre change tout. Mais ce journal, où l'ai-je trouvé ? Je l'ai trouvé dans la salle de soins de la clinique où je travaillais comme aide-soignante de nuit. Et donc la nuit, pendant que mes collègues tricotaient, d'ailleurs elles m'ont appris à tricoter, à faire du crochet, et je lisais le Figaro. Et donc le Figaro a construit ma vie politique, ma vie culturelle, finalement ma vie française. Entre le Figaro et moi, c'est du sérieux, et on ne s'est plus jamais quitté.
Figaro me rappelle évidemment tous les entretiens que j'ai eus avec Baptiste Després pendant mes années en bleu. Aussi cette petite citation de Beaumarchais en dessous du titre du journal. Sans la liberté de blâmer, il n'est point d'éloge flatteur. C'est une citation qui me parle, voilà, pour moi dans ma carrière. Savoir encaisser les critiques et apprécier les éloges.
Pour moi, le Figaro, c'est le journal qui m'informe sans que j'en partage toutes les opinions. C'est ça, la presse. Le Figaro, c'était, et c'est encore, des signatures. J'ai connu Alain Perfit, François-Olivier Gisbert, d'Ormesson. Et d'Ormesson avait su nous faire aimer le Figaro, au point d'aimer même les présidents de gauche. Et aujourd'hui, je lis le Figaro parce que c'est ce qui me permet d'en savoir encore davantage, même sur la gauche. C'est vous dire.
Moi, j'ai commencé à lire le Figaro après le lycée. Ayant des convictions et réflexions politiques plutôt naturellement orientées à droite, je me suis naturellement orienté vers le Figaro. Mais évidemment que quand on est plus jeune et quand on commence à s'intéresser à l'actualité, le Figaro fait partie de ces emblèmes dont on est obligé de connaître le nom et peut-être dont les Français connaissent le plus la dénomination.
Bon anniversaire, le Figaro. 200 ans, c'est pas tous les jours. Prenez bien vos compléments alimentaires et en route pour les 300 ans.
C'est dingue. Comment ça se fait que dans la société française, je pense que tout enfant de plus de 10 ans a déjà entendu parler du Figaro, tout adulte, les personnalités en parlent, même François Hollande qu'on vient d'entendre.
Et puis attends, Jordan Bardella, Pierre Ninet.
Et Giroud,
Au cas où nos auditeurs n'auraient pas.
Rachida est donc désormais tricoté en lisant le Figaro en même temps. C'est quand même très fini.
Bon, ce qui est frappant, c'est que chacun a son histoire. Chacun a ses raisons de lire le Figaro. Voilà le témoignage de Rachida Dati, peut-être la future maire de Paris, qui raconte ce moment fondateur pour elle. François Hollande, qui lit la rubrique politique du Figaro pour apprendre beaucoup de choses sur la gauche et sur son propre camp. Giroud, évidemment, dont on a suivi l'actualité. Bon, chacun a sa propre histoire avec le Figaro. C'est ça peut-être la réponse à votre question. C'est un journal à la fois générationnel et puis à un moment donné de la vie de nos lecteurs, il compte pour eux.
Justement, vous parlez de génération, il y a quand même cette question. Le journal papier en lui-même, pour plein de générations, en le disant d'une façon où mes sœurs comprendront très très bien, c'est un truc de boomer.
Merci.
Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui le Figaro reste une marque installée et continue son expansion et par les réseaux sociaux, par d'autres supports, par le numérique, tout en maintenant quand même un journal papier qui a priori est quand même dédié à des lecteurs qui sont un peu plus avisés ou un peu plus âgés?
Bien sûr, ce qui a changé maintenant, c'est que l'information se consomme par de multiples formats et de multiples canaux. Je crois que c'est la révolution qu'on a vécue ces 10 dernières années. On ne peut plus être présent sur un format unique. Alors ça fait déjà même depuis 15 ans avec la révolution Internet. Donc nous, on a acquis cette conviction que peu importe le format, peu importe les canaux de distribution, nous, on doit être présent partout où sont nos lecteurs. Les réseaux sociaux, 90% des jeunes consultent l'information sur les réseaux sociaux. On doit être présent sur les réseaux sociaux. L'écrit, bien sûr, le digital, vous le savez, on a un des sites internet les plus puissants en France, par mobile, sur la tablette, peu importe. Nous, notre conviction, c'est qu'on n'est pas là pour décider le format et imposer le format que doivent utiliser nos lecteurs. Il y a une condition, c'est que cette information soit produite, réalisée par la même rédaction.
Vous allez être d'accord.
Le même sens. Il n'y a pas de petite ou de grande information. Il faut qu'on soit présent avec la même qualité sur tous les canaux.
Donc vous allez être d'accord avec la citation, j'imagine, de Charles Péguy. Rien n'est plus vieux que le journal de ce matin et Homer est toujours jeune.
Ah oui. Oui, tout à fait. En plus, on a, avec les médias digitaux, un moyen formidable de faire vivre l'actualité. Bon, vous le savez, l'actualité maintenant, c'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Il faut alterner des moments de respiration, un peu comme votre émission, des moments de calme, d'approfondissement, mais il y a aussi une actualité qui roule et il y a une convergence des médias dans le digital. C'est-à-dire que quand vous avez le site internet de France Info, d'Europe, de CNews ou du Figaro, bah, tout le monde converge vers les mêmes canaux. Alors ça, c'est une concurrence accrue aussi, mais ça montre qu'on peut être présent sur tous les secteurs.
Et pour autant, avant, enfin, et même encore aujourd'hui, dans un kiosque, vous avez l'option entre quatre journaux qui peuvent être totalement différents. Donc, il y avait
tout à fait.
Déjà aussi cette concurrence.
Il y a des lecteurs qui aiment le format imprimé. Il y a des lecteurs qui aiment aussi cette lecture. Mais il y a aussi une lecture plaisir. Il faut pas se le cacher. Quand on lit de l'information sur le mobile, un petit écran, il y a un inconfort. Il y a moins de plaisir, on est plus, j'allais dire, tendu, moins calme.
Il y a même cet usage de on va lire un article sur mobile ou sur tablette sur lequel on va tomber. C'est-à-dire qu'on ne va pas forcément rechercher.
Il y a ça aussi.
Alors qu'on picore sur un journal.
Et c'est très difficile d'ailleurs sur les formats digitaux de montrer la richesse de l'offre. Mmh. Ça, c'est un vrai défi. C'est pour ça qu'on utilise aussi tous nos différents canaux pour montrer ce qu'on réalise, ce qu'on fait, pour essayer de montrer qu'on a une proposition très riche et pas simplement aller proposer des faits divers ou des informations spectaculaires.
Et comment on vérifie justement une information dans cette jungle numérique ?
Alors, moi, il y a un mot que j'aime beaucoup, c'est journalisme professionnel. Alors, je sais que ça paraît bizarre.
Dites-nous ce que c'est qu'un journaliste professionnel aujourd'hui, justement.
Les Américains utilisent ce terme pour distinguer aussi ceux qui produisent des contenus, des influenceurs ou tout à chacun. Il y a eu un moment où tout le monde pensait que tout le monde était journaliste. Tout le monde pouvait être journaliste. Non, c'est d'abord un métier et c'est surtout une rédaction, c'est une œuvre collective. Nous, on croit beaucoup à ça.
Vous êtes 500, je crois.
On est 500 journalistes, donc ça veut dire que y a des choix qui sont faits, il y a des angles qui sont pris, il y a des équipes qui se constituent, qui s'entraident. On est relu, on est vérifié. C'est ça aussi la garantie de l'information professionnelle, parce que pour traiter autant d'informations, c'est un immense travail.
Quel regard vous avez aujourd'hui sur des créateurs de contenu, vous venez de le mentionner, mais comme Hugo Décrypte et autres, sur des créateurs de contenu qui font de l'actualité, qui pour certains ne sont pas journalistes, n'ont pas eu de formation de journaliste, ont des équipes, pour certains, de journalistes en interne. Mais quel regard vous avez aujourd'hui en tant que de patron de presse et patron de médias, de dire est-ce que c'est des personnes qui font le même travail que vous ?
Comme Gaspard Gé, aussi.
Ou au contraire, vous avez un regard qui peut dire celui... c'est peut-être encore un peu faible ou c'est pas assez sérieux.
Alors, d'une manière générale, c'est pas le même métier. Le métier d'influenceur.
Mais influenceur média, eux dans leur tête ont la vision d'avoir créé un média.
Quand des équipes se constituent, elles créent des médias en réalité. Dès qu'il y a une équipe éditoriale qui produit son propre contenu. Souvent, la base de l'information des influenceurs, c'est de l'information produite par les autres. Alors, c'est une manière de la diffuser.
Ils devraient vous payer, du coup.
Oui, et en tout cas, reconnaître leur copyright. Parce que quand on fait la synthèse du travail des journaux, bon, certes, on remplit une fonction avec un ton particulier. Et c'est ça qui est assez inspirant chez beaucoup d'influenceurs. C'est ce ton, cette confiance qu'ils réussissent à créer avec leurs audiences. Mais en même temps... c'est le fruit du travail des autres. Donc je crois, moi, que la distinction encore, c'est le travail d'équipe, c'est les rédactions.
D'ailleurs, on le voit très bien dans votre documentaire, toute la journée pratiquement, tu as les deux rédactions qui communiquent, c'est-à-dire celle du, 24-24, le fil d'actualité, et les rédactions du Figaro. C'est une ruche permanente.
Oui, j'aime bien ce mot ruche, parce que voilà, les abeilles sont... intelligente collectivement, encore plus qu'individuellement. Il y a des richesses qui se créent dans les échanges. Les journalistes qui travaillent en équipe s'échangent les contacts, on se relie.
Les dépêches AFP existent toujours ?
Alors, les dépêches AFP, on reprend de l'actualité en breaking news. Oui. Hein, et qui est écrite par des jeunes journalistes, mais vous savez que c'est aussi comme ça qu'on démarre le métier.
Les fameuses dépêches.
Alors, est-ce que dans ce grand environnement-là, vous avez aujourd'hui de plus en plus de personnes qui se mettent à rechercher aussi d'actualité sur l'IA, sur ChatGPT, qui posent des questions. Parfois des articles ressortent, parfois non. Il y a de l'information qui est sourcée, parfois qui ne l'est pas. On a parlé très rapidement des fake news, mais on a aujourd'hui, il y a des chiffres qui sont sortis sur TikTok. 20% des contenus qui sortent aujourd'hui en France sont des faux contenus avec des fausses informations. On est à 10% sur Twitter. Quel est votre rôle dans cet environnement-là ?
Alors, c'est le grand défi de nos métiers. Dans la révolution digitale, je distingue deux phases. La première phase, les médias ont été intermédiés. Un écran a été créé entre eux et les audiences. Soit par le mobile, soit par les outils, les moteurs de recherche, soit par les comptes sociaux, hein, qui sont des univers fermés. Donc un écran a été créé entre eux, entre nous, et les audiences. La deuxième révolution qui est en cours est d'une autre nature. Notre information est reprise, elle sert à l'entraînement de modèles de langage, on se sert de nos informations sans les sourcer. Ça fait plusieurs années que les grands modèles de langage crawlent l'Internet, un peu en toute impunité, je dois dire, reprennent les contenus, entraînent leurs modèles de langage et maintenant proposent ce qu'on appelle, alors la technique du RAG, c'est-à-dire la capacité d'interroger l'actualité avec des modèles de langage, donc de nouveau solliciter l'actualité. Et là, c'est un énorme défi pour nous parce que là, on n'est pas simplement intermédiaire, comme on dit, ce terme un peu barbare, mais il n'y a pas simplement cet écran, en fait. C'est que l'écran devient opaque. La réponse est trouvée au propre contenu.
Est-ce qu'il ne faudrait pas faire comme finalement le fait CMA Média, qui vient de signer un partenariat avec YouTube, prendre les devants et vous associer avec ces plateformes pour mieux gérer l'information?
Il faut toujours, de toute façon, essayer de trouver des terrains d'entente. Pourquoi c'est les acteurs qui sont incontournables, maintenant? Donc on est obligé de trouver des accords. Donc, soit ce sont des accords entre guillemets de type copyright, les droits voisins, vous savez, qui est une rémunération accordée aux médias sur Internet pour l'utilisation de leur contenu, soit des accords commerciaux, comme par exemple avec YouTube, vous parliez de l'accord CMA avec YouTube, où là on partage des revenus liés à l'audience que l'on crée. Ça, je dirais, sont des bons modèles. Le modèle d'IA, c'est plus complexe, c'est du pur copyright. Et là, il faut qu'à un moment donné, ces modèles de langage reconnaissent le rôle que nous avons eu dans la création de leurs modèles et dans l'utilisation qui en est faite.
Un lecteur qui vient chercher la plume du Figaro avec un regard, avec un ton, quand il se retrouve avec une formulation réécrite par ChatGPT,
il y a une perte, c'est sûr, perte de sens, une perte d'intérêt aussi, puisque c'est... Certes, il y a des styles différents dans les modèles de langage, mais ce sont des styles artificiels, on le sait, qui sont copiés. Ça, c'est effectivement le grand défi pour les médias de demain. Je crois deux solutions. Un, trouver des accords de partenariat, de rémunération, pour qu'on soit rémunéré pour notre travail et pour l'utilisation qui en est faite. Soit développer des audiences directes. Il faut que de plus en plus les grands médias comme nous arrivions à trouver ce lien direct avec nos lecteurs, sans passer par ces intermédiaires.
Alors, vous venez de parler justement de rémunération, c'est formidable, on va en parler dans un instant, parce que vous savez quoi, chers auditeurs, Le Figaro gagne de l'argent. Et oui, c'est rare dans les médias, donc il faut le souligner. À tout de suite.
On te la raconte.
Le podcast criminel le plus écouté de France.
Je vais vous raconter une histoire mythique.
Crime, passion, faits divers.
Chaque jour, découvrez ou redécouvrez une histoire qui vous révèle les tréfonds de l'âme humaine.
Ça n'est pas un accident de chasse. Quatre cartouches, c'est une exécution.
On de la traconte. À écouter en podcast sur toutes les plateformes d'écoute, le site et l'application Europe 1.
Cerise nous dit pourquoi on peut compter sur Groupama.
Rien de grave, Victor.
Non, Cerise, c'est juste un accrochage. Mais je dois faire réparer ma voiture rapidement et en ce moment, j'ai beaucoup de dépenses.
Rassurez-vous, Groupama est là. Si vous la faites réparer dans un de nos garages partenaires, vous n'aurez pas de frais à avancer. Nous les prendrons directement en charge.
Ah, merci, Cerise. Je vais appeler mon conseiller.
Et il vous trouvera le garage partenaire le plus proche de chez vous.
Groupama, toujours là pour moi.
Plus d'infos sur groupama.fr pour les conditions et limites des garanties se reporter au contrat.
Je vois du soleil, Madame Latsou.
Oui, ben jusque-là, une chance sur deux. Hein.
Je vois des économies, beaucoup d'économies.
Ah, mais oui, bien sûr, je viens de faire installer un carport solaire à Kenna. Et avec lui, je suis connecté pour faire des économies d'énergie.
Je vois.
Mais c'est tout vu, Madame, c'est Akena, la reine des vérandas.
Et des pergolas.
T'es où ?
Je me
me suis perdu. Trop d'offres?
Bah, on est là pour les soldes.
T'inquiète, j'ai déjà réservé une croisière Costa, tout inclus.
Ok, on se retrouve à la sortie alors.
Ne ratez pas les soldes Costa. Réservez votre croisière d'été avant le 3 février avec 300 euros de réduction par cabine. Info en agence ou sur costacroisière.fr. Costa.
Je sais pas, peut-être qu'au lieu offrant des vacances à Tahiti, il commencerait à travailler.
Bonjour, je suis Ilona, conseillère à Cadomia. Et c'est ce que m'a confié ce papa qui pensait que son fils Léo manquait de motivation. Mais en l'écoutant, j'ai vite compris que le souci, c'était le rythme en classe, trop rapide pour lui. Avec ses parents, on a choisi la solution la plus adaptée. Un stage à Cadomia à chaque période de vacances. Parfait pour reprendre les bases, réviser à fond et progresser rapidement. Résultat, plus 4 points de moyenne. Et chez Cadomia, c'est notre engagement depuis plus de 25 ans.
Cadomia, le plaisir de réussir.
Renseignez-vous sur academia.fr.
Nous sommes de retour dans le poulet du dimanche avec le directeur général du groupe Figaro, Marc Feuillet.
Alors Marc Feuillet, on vous reçoit évidemment pour les 200 ans du Figaro. Le Figaro gagne de l'argent. C'est une exception à la règle en France. C'est quoi la recette?
La recette, c'est les audiences. C'est cette relation au lecteur dont je vous parlais tout à l'heure, le nombre d'abonnés, le nombre de gens qui nous achètent. Dans les médias liés à la presse, il y a toujours deux types de revenus. Il y a les revenus des lecteurs, et puis il y a
donc
les revenus
abonnements,
de la publicité. Et la force du Figaro, c'est d'avoir toujours eu ses deux pieds. Le Figaro a toujours une audience très appréciée des clients, annonceurs, et il a toujours eu un lectorat fort et fidèle, et le digital nous a permis de l'accroître, évidemment aussi, et de la même façon d'accroître nos audiences. Donc ça a été pour nous une opportunité de développement, même si, on le sait, la situation n'est pas facile, parce que ces acteurs technologiques dont on parlait tout à l'heure, qui opèrent sur l'IA, opèrent aussi sur la publicité et la confiance.
Mais vous avez été très très intelligent, parce qu'aujourd'hui on peut dire que vous avez la billetterie, les événements, les voyages, les fameuses croisières, quand même du Figaro, avec donc des auteurs. C'est une façon finalement de financer votre indépendance éditoriale, de recréer du lien avec les lecteurs.
Oui, alors ça c'est 40% du chiffre d'affaires. On repart sur les 200 ans, ça a toujours été le code génétique du Figaro. Si je reprends Villemessant et Hersant, Villemessant avec ses événements, il crée aussi des dîners, il avait des suppléments effectivement de mode. Hersant a donné au Figaro la force de ses magazines. Le
du
Madame
week-end.
Figaro, le magazine du week-end, le Madame Figaro, qui est maintenant, j'allais dire, un des premiers médias féminins hebdomadaires en presse écrite en France. Le Figaro Magazine, qui est un magazine de news et de pitchers, qui ont toujours donné au Figaro une forte audience le week-end et une puissance publicitaire. Voilà ce qui nous est venu de nos 200 ans. Et donc, nous, on a toujours eu la volonté de se diversifier. Je pense qu'on est peut-être la marque la plus diversifiée en termes de médias. Vous avez parlé des voyages, de la billetterie. Bon, de la billetterie théâtre, quand on s'appelle Figaro, c'est quand même une évidence. j'ai parlé de la météo tout à l'heure, mais on a aussi beaucoup d'activités dans le digital, toujours dans des domaines qu'on connaît et qui sont connexes au Figaro.
Que vous avez aussi racheté Gala.
Alors, on a racheté Gala, le
premier site, je crois.
Alors, qui est le premier compte français sur TikTok.
Sur TikTok,
c'est énorme.
Voilà.
C'est énorme, qui a une énorme audience, qui en est, je crois, à 17 millions d'abonnés.
Je
pourrais regarder le dernier décompte, et qui traite l'actualité People, évidemment, sur les réseaux sociaux, mais aussi sur son hebdomadaire. Donc, vous voyez, toujours dans notre zone de compétence, d'expertise, et c'est ça aussi la force du Figaro.
Donc, on ne lit plus le Figaro, on le vit.
Il y a des Figaro, oui, on le vit, vous avez raison. Moi, je dis aussi, il y a des Figaro maintenant. Voilà, dans la vie, il y a plusieurs façons de vivre, de lire.
L'art de vivre, l'onologie, plein de dossiers particuliers.
Je vous disais tout à l'heure que le Figaro était un journal hédoniste, mais c'est vrai qu'il est ouvert vers les plaisirs. Toujours, de tout temps, il a été évidemment ouvert vers la gastronomie, la mode, les voyages. Donc, quelque part, on a l'impression qu'on fait toujours la même chose maintenant.
Alors, c'est marrant parce que je me fais la réflexion qu'on en discute, mais vous ciblez toutes les tranches d'âge, sauf la jeunesse, très jeune. Est-ce que ça a été un parti pris parce que je me dis, le
Qu'est-ce
Figaro,
que tu appelles la jeunesse très jeune?
Je prends par exemple le groupe Bayard, où tu as Okapi, Phosphore, etc. Je me dis, pour un journal les grands-parents, les parents, moi je suis abonné au Figaro, j'ai 26 ans maintenant.
Donc les très jeunes, en fait.
Les très jeunes, tu as les gamins de 5-6 ans. Est-ce que ça a été à un moment donné une volonté d'y aller?
Alors, pas si dans l'histoire des 200 ans du Figaro, le Figaro a
peut-être
a
pas d'enfant, monsieur.
Mais bon, je dirais que ces catégories de lecteurs, entre guillemets, c'est l'édition d'abord qui les adresse. Parce que quand on est un enfant, on ne s'intéresse pas forcément à l'actualité. Hein, qui est
mais pourtant, on a tous les journaux, mon petit quotidien, etc.
Alors, il y a cette initiative, effectivement, d'éditeurs très spécialisés qui ont ces compétences pour respecter aussi les métiers. Je pense qu'il y a des éditeurs spécialisés qui ont cette compétence, cette façon de s'adresser aux très jeunes enfants. Et je crois les journaux d'information, c'est à partir quand même de 15 ans. Qu'on peut toucher nos publics.
Mais jusqu'où peut-on se diversifier sans perdre son identité, finalement ?
Il faut rester autour de ce fameux code génétique que j'évoquais. Quand on a diversifié le groupe Figaro, on a toujours diversifié le groupe et nos activités sur des domaines sur lesquels on avait un regard et une expertise. On a un site vertical spécialisé sur le vin, parce qu'il y a toujours eu une critique et un suivi de cette actualité. Vous parliez des voyages. En fait, on a une activité voyage assez importante, les croisières, mais on a aussi deux agences de voyage sur mesure. On est le deuxième groupe en France sur le voyage sur mesure, le long courrier, parce qu'on avait cette compétence sur le voyage à la fois éditoriale et commerciale. On parlait de la billetterie spectacle parce qu'on avait une rubrique culture forte. Notre groupe CCM, qui s'est beaucoup diversifié aussi sur le numérique, avec le journal des femmes, avec l'Internet, des thématiques qu'on connaît, des thématiques sur lesquelles il y a une vraie synergie. Sinon, on n'apporte rien.
Mais alors, pour les auditeurs d'Europe 1 qui nous écoutent, pour bien comprendre, qu'est-ce qui fait que tous les journaux ne font pas ça ?
Alors, je pense que c'est...
Pourquoi on dit tous les journaux sont en train de mourir, il faut acheter la presse, etc.
Il faut avoir cette capacité.
Mais ça fait 200 ans.
Vous survivez depuis 200 ans.
Voilà, il faut avoir cette... Alors, pour avoir la réponse... Il faut acheter notre beau livre, édité par Étienne de Montetti, qui a fait un travail considérable, ou le hors-série qu'on publie. Voilà, là, il y aura les secrets de la longévité du Figaro. Et c'est un peu dans cette créativité, dans cette modernité, je crois, cette capacité à accepter les changements, tout en donnant l'impression qu'on reste le même.
Vos concurrents viennent vous voir parfois pour vous poser des questions ou avoir des astuces ?
Jamais. Notre porte est ouverte, évidemment. Mais non, je crois que chacun mène son propre destin.
Alors, chère Sophie, c'est l'heure de votre questionnaire.
Le poulet du dimanche, 14h-15h sur Europe 1. Sophie Dolan et Guillaume Bénèche.
Marc Feuillet, quels journaux lisez-vous en dehors du Figaro ?
Je lis tous les journaux. Je suis un énorme lecteur. D'abord de nos propres publications. Croyez-moi, il y a du travail, parce que on publie des magazines, Le Quotidien, des hors-séries, parfois j'ai un gros travail de lecture.
Ça vous arrive parfois de ne pas être content d'articles qui sont sortis, a posteriori ?
Disons, certains que je ne trouve pas assez bons, encore, oui. Voilà, pas assez convaincants, c'est plutôt dans ce sens-là, évidemment, parce que j'ai de l'ambition pour ce qu'on produit et ce qu'on édite, tous les journaux. Je lis la concurrence et j'essaie de le faire...
Même si vous êtes en désaccord intellectuel assumé.
Même et surtout, c'est ça qui est excitant. Après, ce qu'il faut, c'est que ce soit intéressant. Je lis pas ce qui ne m'intéresse pas et parfois, il y a des publications qui sont plus faibles. Mais d'une manière générale, je lis tous les journaux et en particulier la concurrence, bien sûr.
Quel article du Figaro vous a le plus ému ? Non pas comme dirigeant, mais comme lecteur.
Alors, je vais vous surprendre. Sophie, c'est pas un article. C'est un documentaire qu'on a produit pour notre chaîne Figaro TV. Vous le savez, le Figaro a lancé un canal de télévision qui est distribué par les plateformes.
Sur la fin de vie.
Sur la fin de vie. Ce documentaire s'appelle Ensemble. Et il est bouleversant. Et il a été réalisé par Laurence de Charette. Et c'est vraiment un document qui m'a ému aux larmes. Et je crois qu'il ne laisse pas indifférents les téléspectateurs.
Y compris Houellebecq, on a vu vraiment aussi
en larmes.
Quel mot aimeriez-vous que l'on associe au Figaro dans 20 ans ?
Liberté, puisque notre devise, c'est la culture de la liberté. Après, sans la liberté de blâmer, il n'est pas d'éloge prêteur. Toujours la liberté.
Et les dernières petites questions, si le Figaro était une personne invitée à dîner, ce serait qui ?
Ce serait quelqu'un à la fois de brillant et d'impertinent. Ce serait quelqu'un qui instaurerait le débat et qui... Créer la conversation autour de la table.
Qui vous a vraiment impressionné au cours de votre vie ?
Je dirais que, évidemment, je pourrais penser à des grands journalistes, à des grands entrepreneurs de médias, mais je vais vous surprendre, ceux qui sont vraiment épatants, j'utilise le mot épatant, c'est le mot qu'utilisait Chantal Besson, c'est les grands champions. ceux qui réalisent des exploits, ceux qui se dépassent. Il y avait les Jeux Olympiques à Paris en 2024. C'est vrai qu'on est ébloui par des parcours. Teddy Riner, Marchand, Antoine Dupont, j'aime beaucoup le rugby, qui a réalisé un exploit formidable. Ça, c'est vraiment épatant.
Marc Feuillet, qu'est-ce que vous avez mis longtemps à comprendre ?
Ah, qu'est-ce que j'ai vite compris, plutôt ? Je vais retourner la question comme ça. J'ai vite compris que dans un média et dans nos métiers, ce qui comptait, c'est une alchimie. Une alchimie entre des réalisateurs, des auteurs, des journalistes, et puis des entrepreneurs.
Dernière petite question, comment aimeriez-vous que l'on se souvienne de vous ?
Eh bien, j'aimerais que dans 200 ans, mon nom soit évoqué dans l'exposition pour que le Figaro organisera à ce moment-là.
Et devenir un immortel comme les académiciens. Marc Feuillet, merci infiniment d'avoir été à notre table pour cet anniversaire historique. On rappelle que le livre « 200 ans de liberté » qui retrace toutes les années du Figaro est à découvrir en librairie. On lit bien sur le Figaro en kiosque ou sur le figaro.fr. Après l'exposition au Grand Palais de la semaine dernière, d'autres initiatives de prévues ?
On va essayer de poursuivre ces 200 ans toute l'année 2020.